Chapitre 6 20 janvier 1915. Ma mère me dit que, vraisemblablement, M. de Cerdeau viendrait à Paris pour quelques mois et qu'il demanderait à se marier sans attendre. Elle ajouta tristement « Notre situation n'est plus la même. Vous ne supposez pas qu'il reculera pour une question d'argent ?»« Non, assurément. À quoi penses-tu, Marguerite? Il aime ta sœur et il est galant homme. » Nous étions devant l'amoncellement de la raffinerie et ma mère se murmura à elle-même « Pauvre, pauvre Étienne !» Puis, revenant à Olga, elle reprit « Nous la laisserons libre malgré les risques à courir. Elle désire se marier, qu'elle suive sa manière de voir. Elle habitera chez sa belle-mère pendant le passage de son mari à Paris. Pourquoi ne va-t-il pas immédiatement au front ? Je ne sais. » Plus tard, quand j'en parlais à ma sœur, elle me parut un peu confuse. « Vois ce que je lui ai écrit et lis sa réponse. Elle te plaira. » Olga disait à son fiancé que la perspective de travailler longtemps dans un bureau le ferait souffrir alors que ses amis étaient dans l'action. Elle le plaignait. Cette façon un peu naïve d'exprimer discrètement un blâme indirect avait été bien prise et j'en suis gré à M. de Cerdeau, car, quelles que soient ses qualités, je ne le crois pas extraordinairement commode. Il avait répondu « Le feu viendra, ma chère fiancée, mais on me dit que, pendant quelque temps, je serai utile au ministère. Soyez tranquille, j'irai au front. Sans l'enthousiasme de votre frère, mais avec satisfaction, car votre répugnance pour les bureaux cache un dédain dont j'ai saisi tout le sens. Je suis français et homme de devoir, encore que je n'ai pas la corde héroïque qui vibre chez vous. Pardonnez-moi, mais je vous aime. J'allais tenir le bonheur, et voilà qu'il faut être tué dans une guerre absurde. Comprenez-moi bien, je ne dis pas absurde pour la France. Elle se défend, mais absurde quand on pense que la volonté, l'ambition d'un seul homme, peut-être aussi des raisons secondaires, l'ont déchaînée. Absurde pour cet empereur, cruel pour tous, ses conséquences sont incalculables, et nul ne sait où il va. Je suis raisonnable, nullement entraîné, je l'avoue. Le jour de nos fiançailles est déjà loin. Je donnerai toutes les guerres glorieuses pour la vie tranquille, heureuse, que nous devions commencer la main dans la main. Adieu, chère Olga. Je vous aime et vous embrasse. » Pendant la lecture de cette lettre, Olga observait ma physionomie, essayant de scruter mes impressions. « C'est bien, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
À toi seule, je dis toute ma pensée. » Tu sais comment j'ai accueilli le geste de mon père, par conséquent, je suis aussi ardente que vous tous.
Je le crois, je l'espère.
Tu comprends, quand on voit son père partir volontairement, ce serait froissant qu'un fiancé restât dans un bureau.
Très froissant, à mon avis, mais je n'eus garde d'insister.
Nous étions provisoirement installés dans un appartement prêté par des amis, partis précipitamment pour Bordeaux à la suite du gouvernement. La rue étroite, sombre, les conversations que nous entendions, tout nous déplaisait. « Je n'ai jamais tant aimé Fleur que depuis ses blessures, » me disait ma mère. « Quand retournerons-nous dans notre maison ?» Mais, à cause d'Olga, notre séjour à Paris devait se prolonger jusqu'en décembre. Le 10 octobre, mon père passa quelques heures avec nous. Son entrain nous fit du bien et encore plus la façon dont il apprit les détails sur le désastre de Fleur. Nous retravaillerons sur une échelle plus petite. Tu m'aideras, Marguerite. » Il ne parlait que de la victoire qui changeait pour la France la face des événements. Mais la guerre sera une guerre de tranchées, elle s'éternisera, dit-il en soupirant. Monsieur de Cerdeau lui avait écrit pour le supplier de ne pas différer son bonheur. Son stage forcé au ministère, disait-il, faciliterait la réalisation d'un si beau rêve. Mon père est d'avis, tout en maintenant son autorité, que les enfants doivent prendre la plus grande part de responsabilité dans leur destinée. Il causa longuement avec Olga et, après avoir pesé le pour et le contre de la décision, la laissa libre de choisir. Aussi, le mardi 17 novembre, entre quatre témoins, ma sœur s'est mariée à Saint-Thomas d'Aquin, mariage qui ressemblait bien peu à la cérémonie pleine de lumière et de joie que nous préparions à Fleur.
Olga était ravissante, écrivis-je à Christian, et je regrette que tu n'aies pas vu ses beaux cheveux étranges recouverts du voile blanc. Un artiste eût été satisfait. Je n'ajoutai pas à quelle nature d'artiste je pensais pendant la messe. Moi seul, sans doute, songeais à la souffrance cachée du brave cœur qui, ainsi que tant d'autres, avait rêvé. Christian m'écrivit un mot que je gardais pour moi. Il n'aime pas assez Olga pour éviter la critique, et quand nous l'avons vue à Paris, il m'a dit « Ne pouvait-elle attendre ?»« Pourquoi attendre ? Elle a pesé les deux thèses et a choisi celle que son cœur approuve. » « Oh, d'abord, toi, tu excuses toujours. Pourquoi attendre ? Parce que Rémy n'a pas le feu sacré et que son mariage le rendra probablement encore plus mou. Si Olga l'encourageait à s'embusquer, par ma foi, je... » « Que dis-tu donc, Christian ? » interrompis-je très mécontente. « Tu vas trop loin. Olga a tes idées, les miennes, je le sais. Jamais elle n'éloignera son mari du devoir militaire. » « Enfin, que fait Rémy au ministère ? Sa place est au front. Mais il attend qu'on l'y envoie. » « Il attend, ou provoque le départ. » « Tu ne réponds pas, dame Cendrillon. Pourquoi ? Parce que tu es de mon avis. » Rémy, en effet, me déconcerte. Ses réticences, son absence d'enthousiasme, sa froide raison, qui discute sans être tempérée par je ne sais quoi qu'on voudrait lui adjoindre, tout cela impatiente, sans que, en réfléchissant, on trouve rien à blâmer, car il raisonne juste et il est prêt à bien remplir ses devoirs militaires. Je me dis parfois que ces esprits froids, d'une autre espèce que la nôtre, ont leur grande utilité. Ils donnent sur la situation des aperçus que l'imagination trop chauvine ne voit pas, ils modèrent les exagérations, et pourtant... Pourtant, quand simple soldat, l'homme doit obéir, non dirigé, l'esprit cocardier le soutient. Quand chef, il doit entraîner, sa foi patriotique est une flamme qui se communique. Rémy, très certainement, me déroute. Enfin, il a quitté le ministère le 28 décembre, et les critiques de mon frère sont désormais sans fondement. J'en suis contente. Je ne voudrais pas qu'il se glissât un doute dans l'esprit d'Olga, enthousiaste de son mari. Cependant, il faut bien le dire, l'héroïsme de la jeune femme est tombé. Elle ne pense qu'à revoir celui qu'elle aime, et aujourd'hui, un séjour prolongé loin du danger la ravirait. Pensée bien naturelle, je le sais, mais... 15 février 1915. Nous nous sommes réinstallés à Fleurs avec un plaisir si vif que la mélancolie de nos ruines perdait de son intensité. Nous préférons notre solitude aux relations avec des gens qui, n'ayant souffert de rien, nous disaient « Que voulez-vous ? Ce n'est qu'une perte matérielle. Vous êtes jusqu'ici dans les privilégiés. » Et comme nous savons ne jamais nous plaindre, notre désastre devenait quantité négligeable. Les vérités, vérités relatives d'ailleurs, qu'on se dit à soi-même, sonnent faux dans la bouche des autres. Elles impatientent ma mère, qui pense peu à la perte matérielle, beaucoup au chagrin de son mari, dont l'œuvre de toute la vie a disparu. Mon cher père est venu, et courageux, à contempler, sans mot dire, ce désastre dont notre récit ne lui donnait qu'un aperçu imparfait. Que disent les paroles en face d'un tel bouleversement ? Elles sont impuissantes à décrire. Les ouvriers émurés regardaient mon père anxieusement. Moi, je vivais son chagrin et j'eus peine à dominer mon émotion en voyant ses efforts pour contenir la sienne. Un murmure de menace contre les ennemis le rappela à lui-même. « C'est une faiblesse de votre vieux patron, mes amis, » dit-il aux ouvriers qui s'excitaient. « Soyez tranquilles, il reprendra courage. » Après la guerre, nous travaillerons de nouveau ensemble, vous verrez. Ah, les canailles !» répétait Muret, qui sanglotait, tant son bon cœur était touché par le chagrin de mon père. Allons, allons, du calme, Muret. Je suis dans mon tort, du reste, car je dois donner l'exemple de la fermeté. Il s'était repris, et, s'informant des besoins de ses ouvriers, il comprit aussitôt que le mieux était de leur créer des occupations, même si le travail qu'il leur demanderait avait, à ses yeux, un côté factice. Sur ses conseils, envoyés par écrit à Muret, la moitié des hommes non mobilisés étaient entrés volontairement dans les usines de guerre. mon père décida d'employer les autres, s'ils y consentaient, au déblaiement partiel des dépendances de la raffinerie. Après avoir ébauché avec eux un plan méthodique, il les quitta en les félicitant gaiement de leur bonne volonté. Mais quand il remonta à Fleur avec Muret, je fus frappé de voir ces deux hommes si vieillis en si peu de temps. Il nous félicita du résultat rapide de nos efforts. La partie branlante de la maison était fortement étayée. Nous ne pouvions l'habiter, mais les meubles, échappés de ce côté aux obus, avaient été retirés du premier étage, puis descendus dans les offices et lingeries du sous-sol, transformés en chambres habitables. Devant le trou béant du milieu et les décombres intérieurs auxquels il était impossible de toucher sans danger, mon père leva les épaules en disant « Quelle pitié ! Et pourquoi tant de mal déchaîné alors qu'il lui était facile de l'éviter ?» À l'extérieur, dans un fouillis d'arbres brisés, les ruines des communs étalaient au loin leur tristesse, mais le dégagement des abords de la maison, le large et bas perron qui règne le long de la façade et dont la balustrade par miracle était indemne, donnait une impression d'ordre et de relèvement. Ma mère n'aime pas le repliement sur soi-même et nous avions agi en conséquence. L'impression, en arrivant à Fleur, fut donc mitigée. Olga passait 3 jours avec nous et son bonheur, quoique troublé par la crainte, aida à dérider mon père. D'ailleurs, la guerre l'absorbe et, avec la saine vigueur de sa nature morale, il se complaît dans nos motifs d'espérer. Il est reparti en prononçant des paroles d'espérance et de réconfort. Depuis, la vie passe dans une monotonie rompue par l'annonce de malheur. Tant d'amis fauchés déjà, tant de ruines. Cependant, le pessimisme dissolvant ne nous atteindra jamais. Il est à nos yeux un acte, si je puis ainsi dire, antipatriotique, et en voyant de près les pessimistes, mon jugement se confirme. Je dédaigne ces trembleurs qui viennent dans un cercle de femmes pour être remontés par elles, qui critiquent à tort et à travers même le haut commandement. Il serait curieux de voir les bêtises incommensurables qu'accompliraient ces gens s'ils étaient à la tête d'un service quelconque. C'est aisé de faire la guerre les pieds sur les chenets. Je déplore que ceux qui ont une autorité morale ne soient pas toujours sur la brèche pour exalter la victoire et relever les courages chancelants. Quelle différence absolue avec nos milieux militaires. Hier, nous avons vu un colonel retraité de nos amis qui parlait, non pas avec une assurance exagérée, mais avec bon sens et sang-froid. Et quand ma mère rappela avec tristesse l'hécatombe de jeunes officiers qui, au commencement de la guerre, s'étaient lancés avec tant de fougue, il répondit « En effet, au début, il y a eu de bien grands sacrifices. Ne les regrettons pas, car ils ont donné aux troupes un allant qu'elles n'auraient peut-être pas eu sans cela. » Cette belle réponse si militaire restera dans ma mémoire comme l'expression d'une mentalité qui plane sur les faiblesses de nos propres esprits. Et ce ne sont pas des mots. Le fils unique de notre ami a été encouragé par son père à choisir un poste dangereux que le jeune officier convoitait. « Il faut, répétait le colonel, qu'un militaire donne le maximum de ses forces. » Les effacés que nous sommes, nous, les femmes, dans les événements tragiques, ont un rôle passif dont nous souffrons. Du moins, enregistrons tant d'élévation pour nous souvenir, pour monter un jour, s'il le faut, à la hauteur des circonstances. 10 mars 1915. Christian a passé 6 jours dans cette maison qu'il pressentait ne plus revoir. « Nous leur revaudrons cela », s'est-il écrié en contemplant nos ruines. Mais la perte d'argent ne l'a pas affecté. Il est possédé par la guerre, le reste n'est plus réalité à ses yeux. Il a perdu l'enthousiasme un peu irréfléchi des premiers jours, mais il a le sentiment plus profond encore du devoir à remplir. Ses pressentiments se sont envolés et il regarde l'avenir avec une volonté virile. « Je veux sortir de là, capitaine, dame Cendrillon, commandant peut-être. »« Borne-toi 3 galons, » répondis-je en riant. « C'est plus que suffisant à ton âge. »« Bah, qui sait ? Mon âge, il ne sera plus celui qu'indiquent les années. » En tout cas, je veux revenir avec la croix de la Légion d'honneur. » Ma mère entendit cette réponse et lui dit vivement « Remplis ton devoir, mais Christian, je t'en prie, ne t'expose pas inutilement. » Non, non, soyez tranquille, je serai prudent. » Il embrassa tendrement. « N'ayez pas cet air inquiet. On dit que j'ai beaucoup de sang-froid. Mais si vous saviez quel intérêt, quelle joie nous éprouvons à entraîner nos hommes, à nous en faire aimer d'abord. Et ce n'est pas bien difficile. Il suffit de les aimer soi-même, de s'intéresser à leur bien-être, de donner l'exemple nécessaire du sacrifice. Quelle belle mission nous avons !» Son ton devenu ardent contredisait ses prétentions à la prudence. Et pendant que ma mère s'éloignait un instant, il me dit « Ma pauvre maman, ces recommandations me touchent et me font sourire. En guerre, le devoir est plus que le devoir, surtout pour un officier. Je connais son trait que je vous raconterai un jour. Et Jean, que j'ai vu près de elle, il est dans l'émerveillement et m'a raconté des choses superbes. Nous devons tous viser à les réaliser, ces choses superbes. » Ces paroles m'effrayaient. N'importe, mon cœur battait de plaisir en l'écoutant. Sa belle et bonne nature vit au milieu des éléments qui conviennent à son développement. En même temps, nous sourions de son ton de commandement. Il tranche en homme qui a vu, appris, et ce travers deviendra probablement général. Comment des hommes si jeunes, affrontant des dangers inouïs, obligés de prendre les plus graves initiatives, éviteraient-ils les écueils d'une maturité acquise trop vite ? Nous qui l'aimons tant, nous trouvons dans ce défaut la séduction d'un contraste amusant. Presque un visage d'enfant, avec l'assurance d'un homme de 50 ans. Quand nous reviendra-t-il ? Les permissions ne sont pas régulières. Maintenant que nous l'avons revu à fleur, après des dangers courus et surmontés, nous sommes plus tranquilles. Pourquoi ? Il est toujours exposé, cependant. Mais l'âme prend vraiment le pli particulier qui modère les terreurs des premiers jours. 15 janvier 1916. Mon journal n'est plus écrit qu'au passé et à de longs intervalles. Sous la poussée des événements formidables, tout paraît bien pâle en dehors des choses publiques. Quand on se relit, on s'étonne de l'importance donnée jadis au fait de la vie normale et quotidienne. Pourtant, cette vie normale, c'est la vie réelle fondée sur le vrai, et, en lisant le récit de tant d'excès, je me demande comment les hommes en viennent à aimer le mal pour le mal, alors que la bonté, dans toutes ses ramifications, est d'une si exquise douceur. La vie change, mais ne finit pas. Je médite souvent cette belle pensée et ma naïveté s'étonne qu'elle ne devienne pas le fanon de la droiture, des idées et des actes. Mais l'Allemagne n'est ni droite ni bonne. Quand j'écris sur ce ton à Christian, il rit de ma simplicité, mais il m'exhorte à lui écrire mes pensées. « Elles me font du bien », me dit-il dans une lettre datée du 27 décembre dernier. « Écris-moi, écris-moi, Marguerite. Tes idées contrastent heureusement avec ma vie actuelle. Quel mouvement !» Pendant que tu priais avant-hier dans la paix de fleurs, au bruit du vent qui souffle si bien dans les trous de la maison, je poursuivais l'ennemi qui lâchait pied au bruit des 75 et des éclatements d'obus. Je ne voudrais pas n'avoir pas vécu cette nuit de Noël. C'était transportant. J'ai cru me tuer en tombant dans un trou. Vous jetterez des cris d'horreur en apprenant que j'ai été sauvé par des cadavres boches qui ont amorti ma chute. Quelle belle nuit! Si je me sens transporté par un succès partiel, que sera-ce quand nous tiendrons la victoire? Et nos hommes, si braves, si simplement héroïques. Adieu, adieu, je suis pressé. Il est toujours pressé, mon frère, quand il s'agit d'écrire, bien qu'il expédie régulièrement ses courtes lettres. En même temps que sa joie du succès, m'arrivait une grosse missive de Berthe Ravel. « Je t'envoie, me dit-elle, le récit de Jean sur l'affaire de Crouy, passé depuis un an déjà. Il est en ce moment au repos relatif. Il en a profité pour rédiger des souvenirs qui t'intéresseront certainement. » S'ils m'ont intéressé, le Noël de Christian et celui dont parle Jean ne se ressemblent que par les qualités qui se manifestent aussi bien dans l'insuccès que dans la réussite. Vers la mi-décembre, écrit Jean, nous avions quitté le plateau de Nouvron pour participer à une attaque qui, assurait-on, serait décisive. Nous étions immobilisés depuis 3 mois et cet arrêt semblait extraordinaire. Il nous fallait une solution et si on nous avait dit que ce face-à-face durerait encore un an, il durera plus longtemps qu'une année, je ne me fais sur ce point aucune illusion. Tu connais le pays où nous étions, ma chère Berthe, ses vallées charmantes, ses grands plateaux plantés de betteraves et presque sinistres dans leur monotonie. Sur le plateau de Nouvron, l'unité de mesure pour le nombre de cadavres était la betterave. Les fantassins boueux qui descendaient de la tranchée disaient couramment « En face de tel endroit, il y a plus de boches que de têtes de betterave. » Gonfricourt, la ferme Saint-Victor, Sainte-Léocade, ces noms évoquent dans mon esprit un ciel gris plein d'eau, de la terre brune à perte de vue, de grands murs blancs déchiquetés. Une batterie était en position avancée contre une excavation où s'abritaient hommes et chevaux. La nuit, spectacle fantastique que ces silhouettes noires qui s'agitaient sur le fond brillant où flambaient des fagots de bois mort. Autour de ces feux, les oisifs se chauffaient. Certains chantaient des romances sentimentales que l'entourage écoutait avec admiration. Nous attaquions à intervalles de 3 ou 4 jours. L'attaque consistait à bombarder les lignes boches pendant 1 quart d'heure et ensuite notre infanterie se lançait. Malheureusement, pour prendre 2 lignes de betteraves, nous laissions 800 hommes sur le carreau, tués ou blessés. Nos hommes présentaient alors un type hybride. On leur avait donné un couvre-képi bleu sombre, une salopette de toile de la même couleur. Plus de pantalons rouges et, par-dessus ces nouveautés, la boue brune, grasse, étalait une couche uniforme et gluante. C'était l'époque des découragements après la grande défaite et la grande victoire qui nous avait sauvés. Je ne parle pas de découragement pour nous, officiers et majors, mais les nouvelles étaient mauvaises et influençaient les hommes. Dans le Nord, la lutte faisait rage. Matériellement, rien encore d'organisé. Les abris et les cantonnements de repos étaient inexistants. Pas de couverture, aucun des adoucissements qui devaient, plus tard, tempérer la souffrance perpétuelle. Un matin, en pleine nuit, nous quittâmes la position et, après une journée de marche, nous arrivions à Berzy-le-Sec, village orné d'une merveilleuse petite église romane et perché sur une colline qui domine Soissons. Nous fîmes halte et, vers minuit, les batteries de tir avec leurs caissons s'ébranlèrent pour Bussy-le-Long. Elles franchirent l'Aisne à Vénizelles et, vers 7 heures du matin, s'installèrent à la lèvre d'un petit ravin au bord du plateau de Crouy. L'endroit n'avait rien de charmant. Il pleuvait sans arrêt, les marmites étaient abondantes et les balles perdues arrivaient chuchotantes des tranchées ennemies. Pendant que nous causions, le lieutenant d'artillerie et moi, nous faillîmes être tués par des balles. Un pauvre cheval les reçut pour nous. On avait camouflé la batterie en plantant autour un bois de petits sapins. L'attaque devait réussir par sa brutalité. Elle ne ressemblait en rien aux attaques que j'ai vues plus tard. Comme artillerie lourde, 2 pièces de 155 coups, 95, 120, qui d'ailleurs ne purent tirer faute de munitions. Du 55, du 58 et du 75 en quantité modérée. Pendant près d'un mois, l'artillerie fit des réglages. Le jour de Noël, bombardement. Mais l'infanterie ne put sortir, les fils de fer n'ayant pas été détruits par les pétards du génie. En attendant, l'ennemi ripostait avec ses gros 150 et 210, si désagréables, avec leurs panaches de fumée noire et leur bruit d'écrasement. Nous avions repris la vie de secteur et chaque soir, je descendais à Bussy-le-Long pour dîner avec quelques camarades chez une pauvre réfugiée de Sedan qui habitait une petite maison avec sa mère et son fils. J'assurais le service des échelons, caissons de ravitaillement, restés avec les avant-trains de l'autre côté de l'Aisne. Tu connais mes talents comme cavalier, aussi cette promenade était loin de m'enchanter. Je n'oublierai jamais une de mes excursions, note comique au milieu de tableaux horribles. De Bussy au pont de Vénizelles, la route serpentait dans une plaine large de 4 kilomètres. Au départ, mon intelligent animal prend un petit trot sec et marche comme un crabe, malgré mes efforts pour le maintenir en ligne droite. Puis ce sont des cabrioles, des sauts de carpe, qui, d'une façon inquiétante, déplacent sans cesse mon centre de gravité. Enfin, malgré une lutte homérique, j'arrive et passe ma visite. Au retour, à l'entrée de Vénizelles, une brave paysanne sur le pas de sa porte me crie « Attention, mon pauvre monsieur, ils bombardions le poste. Par tous les moyens de persuasion en mon pouvoir, j'essaie d'activer mon coursier. Peine perdue, nous passons le pont au gré de son caprice, et au même moment, j'entends un obus qui baisse, et par bonheur, éclate à 10 mètres de moi dans le marécage. Il ne produit qu'une immense gerbe de boue, sans éclats éparpillés. Mon cheval, rappelé à la réalité, part à fond de train. Je perds un étrier, puis les deux, et me voici, honte suprême, embrassant de mes bras le cou de ce maudit animal. Après 2 kilomètres de cette allure, nous nous arrêtâmes, ou plutôt, il s'arrêta. J'arrive à Bussy, que le Bosch a pris maintenant comme objectif. Or, Bussy-le-Long est le bien nommé. Une seule rue d'1 kilomètre. J'essaie de ramener dans l'âme de mon cheval les excellentes dispositions de tout à l'heure. Vains efforts, il refuse énergiquement d'entrer dans le village où, à droite et à gauche, tombent les marmites. Je descends, je l'empoigne par la bride et le traîne à ma suite. J'arrive à mon poste. Un gros 210 a coupé la route à l'emporte-pièce. Parti au trot, j'arrivais probablement pour le recevoir et je me vois obligé de qualifier d'intelligence la bêtise de mon cheval. Avant l'attaque, nous eûmes les fêtes de Noël. L'église de Bussy, déjà touchée 3 fois, était un endroit dangereux. Néanmoins, le dimanche, elle était pleine comme un œuf, car les hommes mettaient de la coquetterie à s'y rendre. Un chanteur entonna, un minuit chrétien très réussi, et le lendemain, nous nous préparâmes pour une attaque qui n'eut pas lieu. La grande cérémonie fut fixée au 9 janvier. Le bombardement des lignes ennemies commença vers 8 heures, et à 5 heures, notre fusillade indiqua que l'infanterie sortait. Quel moment que ceux qui précèdent l'attaque! Dès le premier jour, les pertes furent sérieuses, même parmi les artilleurs. Tous nos officiers, dans cette malheureuse affaire de Crouy, furent admirables. Le sous-lieutenant Hervé fut haché en commandant le feu d'un 105. La veille, un obus l'avait enterré dans son abri avec le lieutenant et quelques hommes. Ils furent dégagés. Le lieutenant, avec une entorse, dut aller à l'échelon. Hervé, la figure déchirée par des planches, des contusions partout, refusa tout repos. 24 heures après, la mort le frappait. Une de ses jambes, littéralement broyée, ne put être retrouvée, l'autre ne tenait que par un coin de chair et d'os. Il avait un éclat profond du ventre, et quand on le ramassa, avant de se laisser emporter, maître de sa pensée, il voulut passer lui-même le commandement à l'adjudant. Cette puissance de vie chez l'homme m'a souvent effrayé. Il agonisa pendant 2 heures, admirable de calme, et s'éteignit en remerciant des soins impuissants qu'on lui donnait. Le lieutenant X, élève de l'école centrale, non soldat de carrière, remplaça Hervé le soir même, et le lendemain, la gorge tranchée, il fut tué sur le coup. Il a donné l'exemple d'un courage que j'admire de tout mon cœur. Le bombardement l'impressionnait extraordinairement. Il était pris d'un tremblement nerveux, mais à force d'empire sur lui-même, il réussit à étouffer cette révolte de la nature et, dédaignant de s'abriter, il arpentait le terrain en encourageant ses hommes. « Allons, mes enfants, la grande carrière des Boches est enlevée. Mettons-en !» À ce moment, un éclat lui coupa la carotide et lui fracassa le menton. Le capitaine S, long, maigre, teint blafard, cheveux gris et rares, yeux à fleur de tête, était d'une sévérité excessive dans le service, trop dur d'ailleurs, mais au feu, il avait un mépris de la mort absolu. Catholique convaincu, il apportait dans sa religion la même âpreté que dans la discipline. Ses hommes laboraient. Cependant, au plus fort de la bataille, quand on l'apercevait, marchant posément entre les éclatements, le corps encore allongé par un immense caoutchouc noir, les hommes disaient, en le désignant d'un coup de tête, « Y a pas à dire, est-ce c'est une rosse, mais quand même, c'est un poilu !» Le capitaine R était aussi brave, mais d'un genre différent. Court, trapu, d'une force herculéenne, il sauva 2 pièces enlisées en les décollant avec son dos. Il ne punissait jamais, mais si un homme manquait à sa tâche, il l'appelait et, entre 4 yeux, lui parlait de si belle façon que l'autre reprenait le droit chemin. Le lieutenant D, sorti le premier de l'école polytechnique, neveu du président de la République, était un officier calme, posé, d'une politesse rare. Je l'ai vu passer la journée entière, debout, sans s'abriter, commandant le feu avec la tranquillité qu'il devait avoir en temps de paix dans son usine. Il inspirait une confiance absolue par sa bravoure toute de calme et de sang-froid. Le capitaine Comte de S était une figure très originale et sympathique. À 60 ans bien sonnés, il s'était engagé et, comme ancien lieutenant de dragons, le commandement de nos échelons lui avait été confié. En fin de guerre, il en était resté à la campagne de Tunisie. Une face rubiconde, un nez sillonné de veines violettes, un monocle, une grande pèlerine rejetée sur l'épaule dans un geste de capitaine, deux petits yeux noirs spirituels, une politesse de grand seigneur et admirable cavalier. Telle était sa silhouette. Sa voix prenait des intonations émues en parlant des beaux chevaux et du vieil Armagnac. Cette guerre ne lui plaisait pas. « Ah, mon cher monsieur, ce n'est pas du tout ce que j'attendais. » On se tue sans se voir à 10 kilomètres. Ça ne répond à rien. Dans le temps, au moins, on y allait à coups de sabre. » Et son bras coupait l'air d'un grand geste expressif. Il parlait encore de boulets que renfermaient ses caissons. Bien que cette guerre ne fût pas la sienne, il sauva un jour tous nos caissons pris dans un feu de bombardement. Montant à cheval tranquillement, il parcourut sous le feu toute la colonne, ramena le calme par son sang-froid bonhomme et sortit de ce mauvais pas avec tout le matériel qui lui était confié. Il n'avait eu que 2 blessés, alors que, rationnellement, les 3/4 de ses hommes pouvaient y rester. Je garde de cet officier, à la fois grand seigneur et paternel, le plus excellent souvenir. J'espère que la guerre lui sera clémente et que je le reverrai un jour. Enfin, notre vieux commandant, un homme puissant, figure rouge, cheveux blancs, moustache blanche, une voix rude, un excellent cœur, une intelligence médiocre, mais un bon artilleur. En partant pour le front, il eut à ses hommes une sonore proclamation et défendu de pavoiser canons et caissons parce qu'on devait réserver les lauriers pour le jour où nous reviendrions sur les ailes de la victoire. Quelques jours avant Crouy, un brigadier infirmier, chimiste très distingué, chef de laboratoire à la Sorbonne, collaborateur scientifique du prince de Monaco, exerçait ses talents à dépister les immondices dans le village de Bussy-le-Long. Il avait fait creuser un grand trou. Un écriteau avec ce mot « dépotoir » invitait les cuisiniers à jeter les ordures dans le trou, invitation inutile d'ailleurs, et près du dépotoir, un bûcher dévorait les détritus combustibles. R, gai et spirituel, prenait du bon côté sa corvée prosaïque. Il avait coupé une immense canne et, appuyé sur son bâton, avec de grands gestes, il exhortait les hommes et invectivait les ordures. Avec ses traits fins et sa longue barbe, il ressemblait à un moine guerrier. « Au feu, les hérétiques, les excommuniés! Au feu, les relapses! Au feu! Au feu !» Pendant qu'il invectivait les débris de paille, de vêtements et les balayures que les brancardiers jetaient dans le brasier, le commandant arriva derrière lui. Les camarades de R s'attendaient à une attrapade pour cette manière irrévérencieuse d'accomplir le service. Mais dans les gesticulations de R, le commandant vit un zèle ardent pour la corvée d'hygiène. Il eut un bref « C'est bien, brigadier !» Puis, désireux de lancer un mot aimable et plaisant, il réfléchit une seconde, ses yeux rencontrèrent le mot « dépotoir ».« Ah, dépotoir, dépotoir, dépôt, dépôt. Je souhaite que nous y rentrions tous un jour, au dépôt. » Et il partit en riant du jeu de mots plutôt simple. Pauvre vieux commandant, il ne devait pas rentrer au dépôt. Il se conduisit très bravement dans la bataille, reçut un éclat d'obus à l'épaule, revint commander son groupe et, désolé de n'avoir sauvé que 8 pièces sur 12, il eut une attaque d'apoplexie. Évacué une première fois, il revint et j'ai su qu'ayant eu une nouvelle attaque, il était mort à l'hôpital. Ce brave homme, qui était un homme très brave, un vaillant soldat, un bon officier, manqua même sa mort car c'est au feu qu'il eût voulu mourir. Après 2 jours de bataille, les fortes positions ennemies, étayées sur les profondes carrières des coteaux surplombant Crouy, étaient enlevées. Mais le 3e jour, la situation changea. Pendant la nuit, d'importants renforts arrivèrent à l'ennemi en camions automobiles. De notre côté, on osa aventurer la division de soutien parce que l'Aisne, à la suite d'une crue, avait emporté les ponts de bateaux. Il ne restait que les ponts fixes de Vénizelle et de Soissons. Dès le matin, les batteries furent repérées. Le Boche commença un tir d'efficacité en arrière des pièces sur les guitounes. Je dus transporter mon poste de secours avec celui des fantassins dans une grotte que d'abord je n'avais pas vue. Elle précédait un grand souterrain. Nous l'avions échappé belle. Les deux abris touchant le nôtre s'étaient effondrés et j'entends encore, dans la fumée qui emplissait le poste, un maréchal des logis qui me disait en riant « Docteur, il est temps, je crois, de faire sa prière. » La grotte où nous nous installâmes dominait un vallon profond, coupure boisée des grands plateaux nus. Des postes de secours de chasseurs, de marocains et de territoriaux y fonctionnaient. Les pauvres pépères, méridionaux de Béziers, n'avaient jamais vu le feu. La veille, ils avaient eu leur premier tué, à Soissons, d'un éclat de vitre. Ils nous étaient envoyés comme soutien d'artillerie, et je crois qu'il en revint fort peu. Dans le vallon, nous voyions monter une route sinueuse que l'ennemi arrosait de 105 fusants. Très pittoresque l'éclatement de cet obus. Après le sifflement classique, un gros flocon de fumée blanc, verdâtre, condensé, qui se déroulait aussitôt en volutes rageuses. Au centre, un grand éclair qui, un instant, illuminait la fumée de tons de cuivre. Cela donnait l'impression d'un nuage qui a de la force. Les 105 fusants nous amusaient, et peut-être en nous-mêmes, éprouvions-nous le suave Marie Magno, si égoïste mais si humain. Ces obus étaient terribles. Un caisson de ravitaillement étant arrivé, les territoriaux furent commandés pour le décharger. Hélas, un 105 éclata tout près, à bonne hauteur, et je n'oublierai jamais ce groupe d'hommes s'abattant à droite, à gauche, comme un jeu de quilles, tandis qu'un des chevaux blessé à mort, empêtré dans ses harnais, se roulait avec des ruades terribles. Le long de la petite route de crête, des groupes de fantassins blessés ou éclopés reviennent lentement. Des téléphonistes réparent les lignes. L'un d'eux, des nôtres, un avignonnais, est étonnant. Toute la journée, il rôde sur le plateau, rajustant les bouts de fil que les obus cassent sans répit. Il accomplit son travail de Pénélope avec une bonne humeur imperturbable. De temps en temps, il rentre dans sa caverne, bourre sa pipe et plaisante. Sa tête aux traits accentués, au nez bourbonien, aux lèvres rasées bien dessinées, s'éclaire à la lueur de l'allumette et entre deux bouffées, il lance une galéjade, en rit lui-même et s'en va, sifflant, sa boîte sur le dos. C'est un des bons ouvriers de la bataille qui accomplirent gaiement leurs tâches rudes. Le travail ne manque pas pour nous. Par miracle, je n'ai eu encore qu'un blessé à la batterie, un juif algérien, les deux cuisses tailladées d'un éclat de retour. Il n'a pas su s'abriter à temps. Nos canons, malgré le feu d'enfer qui les entoure, continuent leur salve très sagement, comme de bons 95, à raison d'un coup par pièce toutes les 2 minutes. Ils ne peuvent pas s'emballer comme ces rageurs de 75 qui crachent depuis le matin, mais les 4 obus partent régulièrement sur le Boche. Parfois, on manque le départ. Raté de charge, raté des toupilles. Puis, on recommence. Quand la salve ennemie arrive, hop, tout le monde dans la mince tranchée creusée derrière les pièces. Et vite, la réponse aux Allemands. Le pauvre Che, moins rapide, est blessé. Malgré nos garrots, une terrible hémorragie le saigne à blanc en 1 minute et je ne le maintiens qu'à force de piqûres. Le soir, je le descends au médecin-chef, à Bussy-le-Long, mais il expire en arrivant. Au même instant, le vague-maître apporte une lettre pour lui, et c'était poignant, ce petit carré blanc posé sur la cheminée, près de ce mort qui n'en prendrait jamais connaissance. En plus de ce malheureux, la journée se passa à soigner les fantassins apportés par fil de brancard. Les mains gluantes de sang, pas d'eau d'ailleurs pour se laver, il faut vite tourner les garrots, rouler les bandes, mettre des pièces. Dans un fond obscur, afin de ne pas gêner le passage, nous entassons ensuite les blessés qui seront évacués le soir comme on pourra. Nous n'avions pas encore ces admirables sections automobiles qui déblaient si vite les postes de secours. Le lendemain, 12, les nouvelles sont franchement mauvaises. Nous reculons maintenant. le découragement succède à l'enthousiasme des premiers jours. Le bombardement est intenable. « C'est pire qu'à Bouillancy !» murmure un blessé qui soutient son poignet broyé. On m'apporte un commandant d'infanterie. Il a un éclat dans les reins et, pendant que je le pense, il réclame un officier de la batterie. Entre deux grognements que lui arrache la douleur atroce, il indique à l'officier l'endroit où, selon lui, les Allemands pousseront. Puis, quand il a fini, « Fichu, docteur, n'est-ce pas ?»« mais non, c'est superficiel !» Il hoche la tête et ne s'abuse pas. Vers le soir, un peu d'accalmie. Je dors, assommé, dans un coin de la grotte. Autour de moi, la foule crie, gémit. Une section de mitrailleurs de réserve cause autour d'un feu de bois qui danse à l'entrée du souterrain. Accroupis dans leurs grands burnous à capuchon, les blessés marocains sont immobiles comme des sphinx. Vers minuit, deux compagnies de chasseurs et deux d'infanterie pénètrent dans la grotte et, en attendant l'heure de l'action, vont se perdre sous les arceaux de l'interminable souterrain. Au milieu des cris, des piétinements, un grand plaisir arrive, le dîner. Un infirmier de Bussy-le-Long nous apporte une boîte de cornet beef et un bidon de pinard, comme dit mon brave Montérimard, le brigadier brancardier, un tisseur stéphanois, doux, tranquille, le loyal artisan. On se réconforte et la gaieté revient. Ce sont tous de braves gens, mes infirmiers, depuis le bon B au terrible accent du Vaucluse qui s'était montré héroïque lors de la blessure du lieutenant Hervé. Il l'avait relevé et pansé sous le feu en lui disant « N'ayez pas peur, mon lieutenant, vous n'avez qu'une balle dans la jambe. » Évidemment, c'était un peu naïf et le pauvre Hervé, qui voyait ses membres broyés, ne fut pas dupe de l'intention excellente. K, un avocat de Lyon, fut également très bien dans cette circonstance. Il s'offrit comme volontaire pour descendre, à Bussy, le corps de M. X. Ce geste de s'exposer si terriblement pour donner la sépulture à un cadavre est vraiment joli. Comme beaucoup de Juifs, K était légèrement menteur, très vantard et savait aussi se débrouiller merveilleusement pour obtenir de bons postes, mais dans cette circonstance, il fit très simplement plus que son devoir. Le pauvre garçon, en avril, est mort de la grippe. Je pourrais les citer tous, jusqu'au grand C, un juif d'Alger, fort peu intéressant, qui accomplit un acte de piété remarquable. C'était un splendide garçon, du type sémitique le plus pur, mais lâche, trembleur, amoral, capable de toutes les filouteries. L'artilleur, tué à notre batterie, était son cousin. C, malgré la peur qui le talonnait, parcourut sous le bombardement une partie du village afin d'ensevelir son corps légionnaire dans le drap blanc rituel. Le lendemain, le Boche reprit son terrible effort. Le bombardement redoubla de violence et nos munitions épuisées n'étaient plus renouvelées. C'était la fin. L'infanterie plia, puis recula en désordre. Les sergents de nos pièces prirent leurs mousquets. Aucun ordre de nous replier et, dans la grotte, nous nous attendions à être pris. Nous avions rangé les blessés contre une des parois, nous efforçant autant que possible de leur cacher la vérité. L'infanterie en réserve sortait en colonne pour tenter la résistance suprême. Parmi les souvenirs horrifiants de ce moment, je vois en malheureux les deux orbites vidées par une balle qu'il avait pris tangentiellement. D'un geste fou et sans arrêt, il tâtait le vide devant lui. Sous le bandeau blanc du pansement s'étalaient deux grosses étoiles rouges. On eût dit un spectre. C'était hallucinant. Bandit, assassin, allez! Au milieu des plaintes plus âpres, les ordres brefs des officiers tranchaient, rapides. Première section, sac à terre, baïonnette au canon. Nous entendions tout cela en pensant les blessés qui arrivaient, certains frappés à la sortie du souterrain. Dans la colonne qui s'en allait, des arrêts brusques, des reculs quand une marmite tombait devant la porte, puis la sortie continuait. Bientôt, nous restâmes seuls avec nos blessés, les médecins de l'infanterie et moi. « Sans doute, les Boches vont nous massacrer tous, » me dit un vieux collègue. « Il paraît qu'hier, les Marocains n'ont pas fait de prisonniers. Cachons les armes, au moins. » D'un geste brusque, il jeta hors de la grotte un fusil à baïonnette tordue et sanglante. Enfin, un artilleur arrive en courant. « Docteur, l'ordre est arrivé. On déculasse les pièces et on bat en retraite. Dépêchez-vous. » Bro, la sortie sera rude. Je fais signe à Montérimard, mon brigadier, et nous partons. Je n'ai aucun blessé à emmener, heureusement. À peine sorti, je vois, le long du petit chemin, couché dans la boue, une ligne de chasseurs qui tire sans arrêt. J'ai l'impression d'un homme surpris par une averse et qui se trotte sans parapluie. Les marmites tombent partout et, plus agaçantes, des volées de balles cassent les branches du petit bois. Nous descendons rapidement une pente boisée, pourvu que nous retrouvions les deux batteries qui, paraît-il, nous attendent au carrefour de Bussy pour franchir l'Aisne. Les shrapnels s'égrènent sur nous. Un percutant arrive plus près. Je fais un bond instinctif pour l'éviter. Je roule et dégringole un talus de 3 ou 4 mètres. Je n'ai rien, mais une grosse souche m'a heurté le côté et coupé la respiration. Un immense découragement me saisit. Comme dans un rêve, je vois les chasseurs qui commencent à lâcher la crête et à dévaler par petits groupes. Quelques-uns, pris de panique, laissent tomber leurs fusils pour aller plus vite. Je me sens à bout de force. Une toux assommante me secoue et je commande à Montérimard de me laisser. Mais le brave garçon m'a pris par le bras et son calme me ranime. « Allons, allons, monsieur le docteur, ne vous abandonnez pas vous-même !» Et à petits pas, je me remets en marche. Aux premières maisons de Bussy-le-Long, les gros noirs commencent à tomber avec un bruit de locomotive. Nous passons devant l'église et, poussés par ce besoin d'asile que l'on éprouve quand on est traqué par la mort, je dis à Montérimard « Si nous nous abritions !» Mais déjà il m'entraîne et il a raison car une marmite formidable s'écrase devant le porche. Ma toux ne cesse pas. J'étouffe. Le brigadier me conduit dans une très belle maison où est installé pour l'infanterie un poste de secours central. On m'étend et peu à peu mes quintes se calment. Les obus de gros calibre pleuvent. À chaque explosion, instinctivement, on s'abrite les yeux pour éviter les débris de vitres qui s'émiettent. Montérimard ne m'a pas abandonné. Nous rejoindrons les batteries quand vous pourrez marcher, docteur. Il risque d'être fait prisonnier, ce que nous redoutons par-dessus tout, mais il reste avec moi. Un camarade d'études, médecin à l'infanterie, m'offre une tasse de thé qui me fait grand bien. Le soir tombe, l'infanterie s'est ressaisie à une crête et l'ennemi, intimidé, ne pousse plus. Il nous faut gagner Vénizel, 4 kilomètres sous le feu. Des rafales de balles passent dans les rues. Nous nous courbons tous les deux, rampant presque pour sortir du village, et dans la nuit, que les shrapnels raient d'éclairs, nous nous hâtons à travers champs. Nous arrivons indemnes au pont de Vénizel, et avec les 8 pièces qui nous restent, nous allons nous mettre en batterie pour défendre Soissons, où les Allemands, une fois encore, n'entreront pas. Ce récit vécu est tout un raccourci de la guerre. Je le consigne précieusement dans mon cahier. Jean rend justice à ceux qui l'entourent. Il fait valoir leur héroïsme et, naturellement, garde le silence sur lui-même. Mais la citation qu'il obtint dans cette affaire parle éloquemment. Une chose frappante et admirable, selon moi, c'est de voir des hommes, ou médiocres ou mauvais, se conduire en guerre comme les meilleurs. L'étincelle divine jaillit en dévouement et devoir accompli héroïquement. J'ai écrit à Berthe de me communiquer d'autres récits si son frère lui envoie de nouveaux souvenirs. Les promesses de Christian me laissent incrédule. Je connais son antipathie pour les longues rédactions.